Et bonjour à tous, nous sommes l'AGIS du lycée Sophie Germain et aujourd'hui nous sommes à Radio Campus Paris avec Sophie Perouaguet. Sophie, vous êtes journaliste et queer et nous, l'AGIS, nous faisons un atelier radio sur la question de la représentation LGBT+ dans les médias, en l'occurrence à la radio. Bienvenue. Alors peut-être que vous pouvez commencer par nous expliquer, nous résumer votre formation que vous avez reçue, le parcours que vous avez fait pour devenir journaliste.
Moi j'ai commencé pas par une école de journalisme, j'ai commencé sur le tas, j'ai rejoint un média indépendant qui s'appelle Radio Parleur, qui est un média de lutte, notamment les luttes de gauche. Là-bas j'ai appris à être journaliste, donc j'ai fait des reportages, j'ai couvert des manifestations, je suis allée faire des reportages à l'étranger, j'ai aussi fait une série féministe en 2 saisons, on publie en podcast, donc là j'ai appris plein de trucs. Ensuite j'ai travaillé un été à France Inter, radio publique, où là j'ai fait plutôt ce qu'on appelle de la production, donc j'ai aidé à préparer des émissions. Et à la suite de ça, je suis partie un peu à l'étranger, et quand je suis rentrée, j'ai trouvé un poste à BFM, au service podcast de BFM, car on ne le sait pas, mais BFM fait aussi des podcasts. Et il se trouve que c'était un poste en alternance, j'avais pas tout à fait prévu de faire une école de journalisme, mais il se trouve qu'en acceptant ce poste, je me suis inscrite du coup dans une école de journalisme, qui est l'Institut Européen du Journalisme. C'est pas une école reconnue par la profession, mais j'ai appris des choses intéressantes là-bas, et l'intérêt était de pouvoir faire l'alternance et donc de continuer à me former tout en travaillant.
Très bien, j'ai juste une petite question. Qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous avez retenu principalement de...
De mon parcours ou de la formation à l'IEJ?
De la formation que vous avez fait en alternance.
La formation en alternance, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'avais déjà un pied dans ce qu'on appelle le monde professionnel ou en tout cas dans une rédaction. Ça m'a beaucoup appris. Et puis, il y avait quand même des modules à l'école de choses que je ne savais pas encore faire. Moi, j'ai une formation très radio. Et l'école m'a permis de toucher un peu à d'autres choses. On a fait des modules vidéo, on a fait un peu des modules d'écriture aussi. Donc, ça m'a permis de toucher à plusieurs choses que je n'avais pas forcément faites dans mon parcours avant.
Très bien. Est-ce que votre formation a traité les questions LGBT?
Non. À l'IEJ, on n'a pas eu de module spécifique sur les questions LGBT. Moi, c'est quelque chose auquel je suis sensible bien avant ça, mais pour autant, à l'école, on n'en a pas eu. Par contre, à l'école, on était assez libre de traiter les sujets qu'on voulait. Et donc, moi, je me suis retrouvée, par exemple, dans la semaine vidéo à faire toute une vidéo sur une étude qui a été faite par l'AJL sur la représentation trans dans les médias, notamment. Donc, j'ai pas eu de module, mais par ailleurs, j'étais assez libre de traiter les sujets qui m'intéressaient.
Et comment ça se passait? Du coup, vous faisiez des vidéos que vous rendiez et vous étiez noté ou des choses
ouais.
comme ça ou
c'est... Ouais, c'était un peu le principe. C'est qu'on avait un peu, comme on était en alternance, on avait des cours certains vendredis et puis des semaines plus intensives sur certaines thématiques. Donc, on a eu une semaine enquête, une semaine vidéo, une semaine podcast et une autre semaine, je sais plus ce que c'était, actu, un truc du style. Et donc, à chaque fois, on avait des rendus et on pouvait, mais par contre, on pouvait aussi choisir un peu les sujets qu'on voulait faire. Ouais.
Et ça a duré combien de temps, la
formation? La formation, c'était une formation en une année. Donc, c'était un contrat d'alternance d'1 an et l'école était en 1 an aussi. Ce qui n'est pas tout à fait la norme d'habitude, les alternances, notamment dans les écoles reconnues, c'est 2 ans. Mais là, moi, ça m'allait très bien de faire une année.
Et en parlant de temps, depuis quand vous vouliez être journaliste? Enfin, c'est depuis vraiment que vous êtes petite ou c'était pas...
Je pense que c'est arrivé au collège, l'idée d'être journaliste, d'avoir envie de raconter des histoires. C'est un truc que j'ai gardé aussi au lycée. Et puis après le lycée, j'ai fait une classe prépa, donc je me suis un peu éloignée du journalisme parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je n'avais pas forcément envie de faire une école de suite. Et puis après la prépa, j'ai fait une licence d'infocom en me disant que ça allait m'aider à me préparer au concours des écoles. Et puis en fait, cette année d'infocom a été... un peu détourné du journalisme parce que ça m'intéressait pas trop finalement. J'ai fait d'autres trucs cette année-là. Et donc après, j'ai fait un master d'études de genre et de sociologie. Donc là, je me suis largement éloignée du journalisme. Mais il y avait quand même cette idée qui restait toujours dans un coin de ma tête de me dire « Ah, j'aimerais bien être journaliste ». Et donc en fait, mon entrée à Radio Parleur s'est faite par ce biais-là où j'ai fait un stage chez eux pour faire de l'observation, pour faire un mémoire de socio. Et en fait... en parallèle de ce mémoire de socio, ils m'ont formée au journalisme et donc je me suis retrouvée à faire du journalisme alors que j'avais un peu abandonné l'idée auparavant. Mais voilà, okay. Depuis le collège, quand même.
Et sinon, pourquoi avoir choisi spécifiquement la radio ou le podcast alors que le journalisme, ça s'étend, ça peut aller journaliste papier ou même vidéo.
Moi, j'aime bien parler. Je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Donc ça, c'était un truc assez simple à choisir. Et j'ai toujours grandi en écoutant la radio. Donc c'était aussi un média qui m'attirait plus ou en tout cas que je connaissais plus. La télé n'est pas du tout un truc qui m'attire. J'aime pas du tout l'image. Je trouve que la radio, il y a plus un truc, un peu une force imaginative de la radio, c'est-à-dire que les gens nous écoutent au quotidien et font d'autres choses en même temps, alors que la télé, c'est beaucoup plus... on a l'habitude en tout cas de dire que la télé, c'est beaucoup plus passif et que les gens regardent des images mais sans faire autre chose ou sans analyser, alors que la radio est quand même un truc de relation avec l'auditeur qui se crée plus facilement, je trouve. Et comme j'étais plus à l'aise à l'oral, la presse écrite m'a pas trop intéressée non plus, quoi.
Très bien, et j'ai juste une dernière question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi BFM au vu de sa vision politique? Ouais.
J'ai choisi BFM. C'est effectivement pas du tout ma vision politique, BFM. C'est un truc que j'ai commencé à Radio Parleur et après j'ai fait France Inter, qui sont quand même plutôt des médias de gauche. Et BFM, pas du tout. J'ai choisi un peu par hasard, en fait. J'ai candidaté, j'ai vu l'annonce l'été où je rentrais en France. J'ai candidaté un peu pour la blague quand même, mais parce que le poste m'intéressait, mine de rien, c'était un truc de podcast et c'était un podcast quotidien d'actualité, donc ça m'intéressait de me confronter à ça. Et en fait, j'ai beaucoup appris à BFM. Ça a été hyper formateur. Ça a été y a eu des jours très désagréables politiquement. Y a eu une journée avant Noël. L'année où j'y étais, c'était les grèves à la SNCF, et donc moi c'était le jour où je partais en vacances. Et donc le jour de mes vacances, on a fait un épisode sur la grève à la SNCF où on a juste tapé sur les grévistes pendant toute la durée de l'épisode. Donc moi je suis été là, bon allez, je m'en vais, c'est les vacances. Mais mine de rien, c'était aussi hyper formateur parce que c'était aussi se confronter à des idées qui sont pas dans mes cercles et du coup d'expliquer l'importance de moi, mes idées et tout, ou en tout cas de me dire ah je vais essayer de tenter les choses, tenter de changer les choses de l'intérieur, ce qui est très difficile, je m'en suis rendu compte par la suite, mais en tout cas, il y avait un peu aussi cette idée de me confronter à ce que je connaissais pas vraiment.
Okay, donc, quand vous entrez à BFM, c'est vous avez cette idée derrière la tête de « je vais changer un peu
» Modestement, en tout cas, je m'étais dit « bon, à voir, peut-être qu'il y a des choses à y faire ». Par ailleurs, le service podcast est un service un peu particulier. On est rattaché à la rédaction web et pas à la télé. On n'était pas au même étage physiquement du bâtiment que toute la rédaction de BFM. Et donc, on avait quand même une certaine liberté dans le ton, dans les sujets. Alors pas à chaque fois, mais et puis on avait un chef de service qui est parti moi l'année où j'étais là, mais qui faisait en sorte de favoriser certains sujets, notamment écolo et féministes. En tout cas, au moment où il était là, ça se faisait. Après, ça a été plus compliqué, mais ouais, il y a eu un peu cette volonté là de changer les choses, même si c'est pas facile.
Eh ben écoutez, merci beaucoup Sophie.
Avec plaisir.
Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sophie avec mes compagnons Juliette et Robin. Sophie, vous êtes journaliste depuis 6 ans vous êtes ici pour nous partager votre expérience professionnelle dans le milieu journalistique en tant que LGBT. Alors nous avons une première question.
Oui, alors déjà pour commencer, est-ce que lorsque, dans les diverses rédactions, groupes, etc., dans lesquels vous avez participé en tant que journaliste, est-ce que vous étiez ouvertement est-ce que vous montriez ouvertement votre sexualité, disons, dans le sens où est-ce que c'était une information publique ou est-ce que vous le gardiez pour vous plutôt ?
Ça dépendait des rédactions, je dirais, mais la plupart du temps, oui, j'étais ouvertement lesbienne. À Radio Parleur, ça s'est très vite fait, notamment aussi parce que j'arrivais en tant que stagiaire dans master d'études de genre, donc la question s'est rarement posée. Mais ça a été très vite dit, et puis j'ai très vite proposé des sujets en rapport avec ça. À France Inter, ça s'est dit très facilement aussi. On était plusieurs lettres Et à BFM, ça s'est fait. Ça a mis un peu plus de temps parce que je ne savais pas trop comment aborder la question ou en tout cas comment le dire. Donc je l'ai dit d'abord à des collègues avec qui j'étais proche et je n'ai pas fait d'annonce officielle. J'ai plutôt dit au fur et à mesure des discussions quand la question se posait. Avec la hiérarchie à BFM, ça s'est pas vraiment dit. Je pense que ça s'est su, mais que, enfin, moi en tout cas, j'ai pas fait l'effort de le dire parce que j'avais pas envie de le dire forcément et que c'était pas un truc important en tout cas. Par ailleurs, à BFM, la hiérarchie est aussi en partie LGBT. Ça se voit pas du tout. C'est pas du tout des personnes LGBT militantes. C'est plutôt des, comme on dit, des gays de droite. Mais en tout cas, il y avait quand même cette un peu cette reconnaissance tacite qui existait quand même. Voilà, ça a toujours été un truc. Enfin, j'en ai jamais fait un fromage en disant oh là là, il faut absolument que je fasse mon coming out de façon hyper officielle et tout. C'est plutôt sur le ton de la conversation et les sujets que je choisis qui font que les gens se doutent que je suis pas tout à fait hétéro, quoi.
Ok. Et est-ce que du coup, vous considérez que votre orientation sexuelle a pu influencer votre carrière, que ce soit positivement ou négativement? Est-ce que vous avez ressenti une pression? Est-ce que vous êtes senti isolé à cause de ça ou pas spécialement?
Pas spécialement. Je pense que j'ai pas assez de recul sur ma courte carrière pour savoir si ça a vraiment eu un impact sur ma carrière. Donc je pense pas que ça ait impacté négativement ma carrière aujourd'hui. Et positivement, oui, évidemment que moi je trouve ça important qu'il y ait des journalistes LGBT pour plein de raisons, mais notamment pour des questions de représentation. De dire que, bah, en fait, oui, on est LGBT, mais on est aussi journaliste, on fait aussi plein de choses très différentes. Et puis, ça influence aussi ma carrière dans le sens de quel sujet et quelle réflexion j'ai envie de développer, quel choix de sujet j'ai envie de faire. Et donc, évidemment, que des sujets féministes et des sujets sur les personnes LGBT, les problématiques LGBT, évidemment que ça va plus m'intéresser que la question du nucléaire en France, par exemple, au pif.
Et donc, du coup, en parlant de militantisme, est-ce que vous considérez comme militante ou pas ?
Au début, quand je bossais à Radio Parleur, oui, parce que c'était un média qui se disait engagé, militant, et que du coup, c'était important pour moi. C'était aussi une période de ma vie où j'avais envie de militer, de faire des manifs et de militer pour mes droits. Donc à ce moment-là, oui, je me disais vraiment militante. Aujourd'hui, un peu moins, pour plein de raisons. Parce que je considère que, mine de rien, les droits LGBT ont un peu progressé. C'est loin d'être parfait, mais quand même, ça va mieux. Et aussi, parce que je crois en un truc qui s'appelle l'honnêteté journalistique, qui est un peu différent de l'objectivité, qui pour moi n'existe pas vraiment. Mais où du coup, maintenant, c'est un peu ma façon de raisonner, c'est ça, c'est je dis en fait je suis lesbienne, je suis honnête sur le fait que je suis lesbienne et que les sujets LGBT m'intéressent, voire même que j'ai une expertise sur ces sujets-là, plus que des personnes hétéros notamment. Et que du coup c'est plutôt ce truc-là d'honnêteté journalistique, de dire bon en fait voilà, je suis lesbienne et donc évidemment que ça va influencer le choix de mes sujets, mes réflexions en tant que journaliste. Pour autant c'est pas non plus du militantisme au sens de je suis dans une asso militante, je vais défendre des lois, etc. Mais je vais quand même choisir des sujets ou des intervenants sur d'autres sujets qui me semblent importants qu'ils aient la parole, quoi.
Et du coup, notamment, vous aviez évoqué BFM et le fait que du coup c'était le coming out n'a pas forcément été direct, voilà. Et on peut s'imaginer que certaines personnes, c'est des sujets dont on parlait pas forcément beaucoup sur place, etc. Et donc, est-ce que vous avez dû, notamment durant des, je sais pas, des reportages peut-être que vous avez voulu faire ou ce genre de choses, est-ce que vous avez dû vous auto-censurer vis-à-vis des questions LGBTQIA+?
À BFM, ouais, ça a été plus compliqué sur ces questions-là. En fait, plus généralement sur les questions féministes et écolo, ça a été très vite dit. Comme BFM est une entreprise de médias privés, leurs revenus sont notamment basés sur les audiences et sur la pub, et donc les audiences sont hyper importantes, beaucoup plus que dans une radio associative ou que dans le service public, même si de fait ça compte un peu quand même aujourd'hui. Et donc BFM, très vite, sur le podcast sur lequel je travaillais, regardait les audiences très fréquemment, et les sujets qui marchaient le moins bien, c'était les sujets féministes et les sujets écolos, pour plein de raisons, mais notamment les gens qui écoutent BFM sont des vieux mecs de droite, voilà. Et donc, ça a conditionné les choix des sujets pour la suite de l'année où j'y ai travaillé, parce que très vite, la hiérarchie, les chefs ont dit bah, les sujets féministes et écolo, on va arrêter d'en faire. Moi, j'étais un peu en mode ah, c'est compliqué. Et donc, il y a quand même eu une forme d'autocensure dans la mesure où, des fois, j'avais des idées féministes ou des idées écolo et des sujets qui me semblaient intéressants. Que j'ai pas osé proposer parce que je savais que de toute façon ça allait être refusé, donc c'était même pas la peine d'y penser. Et après, on a quand même fait des sujets féministes ou des sujets LGBT, mais traités avec un angle style BFM. Notamment, on a fait beaucoup de sujets de faits divers parce que ça intéresse beaucoup les gens. En fait, les podcasts de faits divers, ça marche hyper bien en termes d'audience. Et donc, on a fait pas mal d'épisodes sur des féminicides. Qui pourrait être un sujet féministe, qui pourrait être très bien traité d'un point de vue féministe, et qui en fait ont été trop, enfin pas hyper bien traités. On a fait aussi des sujets sur des accusations de viol, on en a fait trois, un sur PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, qui était un présentateur télé qui a été accusé par 17 ou 18 femmes, je crois, un sur Moa Lasquale et un sur... le troisième m'échappe, mais voilà, on a fait quand même quelques trucs sur des accusations de viol. Et après, on a fait un épisode, enfin il y a eu un épisode qui moi m'a beaucoup enfin sur lequel j'étais très en colère parce que j'ai pas réussi à avoir l'invité que je voulais, et on a eu un autre invité qui était vraiment nul. C'était un épisode sur le foot et l'homophobie dans le foot. Donc vraiment, j'étais là, yes, c'est mon sujet, c'est mon moment. Et donc, j'ai proposé un invité qui était Wissem Belgacem, qui est un footballeur LGBT, qui a fait son coming out et tout, et qui a plein de choses à dire sur le sujet. Il a écrit un bouquin et tout. Et donc, j'étais en contact avec lui, j'étais en train d'essayer de le caler. Il faut savoir que moi, je travaillais sur un podcast quotidien. Donc, en fait, c'était la veille pour le lendemain, très souvent, de trouver des invités. Donc, c'était des fois un peu compliqué. Et en fait, ma collègue, en parallèle de moi, où j'étais en train de caler Wissem Belgacem, a calé un autre gars qui s'appelle Olivier Rouillet et qui est un vieux joueur de foot dans les années 70-80 et qui, après sa carrière, a fait son coming out, mais qui, du coup, dans l'interview, a dit des trucs plutôt homophobes et pas très, enfin, en tout cas, pas hyper progressiste. Donc ça a été une grosse frustration, cet épisode-là était très... Enfin, moi, je l'ai très mal digéré. J'ai eu ma revanche, car plutôt vers la fin de l'année, on a fait un épisode sur Marinette Pichon, qui était une joueuse de foot française, lesbienne, qui appartient un peu aux États-Unis et tout. Et il y a eu un film qui est sorti l'an dernier. Et donc, à l'occasion du film, on a fait un épisode sur elle. Et là, j'ai réussi à inviter une meuf des Dégommeuses, l'équipe de foot LGBT. Donc là, vraiment, j'avais pris ma revanche. C'était vraiment très, très super comme épisode.
Et du coup, dernière question. On a appris que vous aviez intégré l'AJL, donc qui est l'association des journalistes LGBT. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est et pourquoi vous avez intégré l'AJL ?
Yes. Alors moi, j'ai pas intégré l'AJL, mais c'est un truc auquel je pense. Et par ailleurs, je connais des gens qui y sont et qui font un super travail. L'AJL, c'est une asso pour les journalistes LGBT. Ils y font plein de choses très différentes, notamment des guides et des kits de survie à la destination des rédactions pour se former sur les questions LGBT. Donc ça, c'est hyper important parce qu'il y a plein de journalistes qui ne sont pas formés à ces questions et qui racontent n'importe quoi. Donc ça permet de continuer à se former même après être sorti de l'école. Ils font aussi une super newsletter qui est vraiment hyper chouette à lire, avec plein de recommandations de trucs bien à lire, et aussi ils soulignent les médias qui ont fait des bêtises et qui ont raconté n'importe quoi. Ils font une cérémonie chaque année où ils remettent des prix pour récompenser les médias qui ont fait des bonnes enquêtes et un bon travail sur les questions LGBT. Ils font plein d'actions, ils font une chronique dans Gouinement Lundi, une super émission lesbienne. Voilà. Le GL, c'est vraiment super.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui en présence de Sophie Perwaguet pour travailler sur la question de la représentation LGBTQIA+ dans les médias, bonne ou mauvaise. On va parler de son évolution et de ses impacts. Donc, on va commencer. Présentez-vous en quelques mots.
Eh ben oui, je m'appelle Sophie, je suis journaliste depuis 6 ans maintenant et j'ai travaillé une année à BFM, au service podcast de BFM.
Donc, pour commencer, que pensez-vous de la représentation LGBTQIA+ dans les médias aujourd'hui ? Et plus spécifiquement à la radio ?
Je pense que ça a évolué plutôt dans la bonne direction. Il reste évidemment plein de choses à faire, mais je trouve qu'il y a quand même des sujets qui n'étaient pas abordés avant qui le sont maintenant, plus ou moins bien. À la différence de la presse écrite ou de la télé, on a moins de chaînes de radio. Quoique, en disant ça, je me dis, il y a quand même Europe 1. Mais j'ai l'impression qu'en radio, il y a un peu moins de chaînes de radio particulièrement de droite qui racontent n'importe quoi. À l'exception d'Europe 1, du coup. Mais je trouve que ouais, c'est plutôt en évolution. Il y a plus de sujets qui sont abordés. Par contre, ce qui manque... et ça c'est pour tous les médias, il manque de la représentation de journalistes LGBT. Moi je serais incapable de vous citer le nom d'un ou une présentatrice LGBT à la radio. Là j'essaye un peu de réfléchir, mais j'en vois pas trop. Il y en a un peu à la télé, mais pas non plus, ils sont pas non plus très, très présents. Donc je pense qu'il y a quand même un gros problème de représentation des journalistes LGBT.
Et donc, est-ce que vous, j'imagine que vous avez peut-être une idée d'une, entre guillemets, bonne manière de représenter la communauté LGBT, peut-être, du coup, là, vous avez dit qu'il n'y avait pas assez de journalistes, mais aussi de la manière dont on en parle.
Ouais. Ouais, déjà, il faudrait plus de journalistes LGBT, une meilleure formation des journalistes, je pense que ça commence par là. Dans les écoles aujourd'hui, pour la plupart, il y a des modules sur les questions LGBT, mais il n'empêche qu'il faudrait faire beaucoup plus. Il faudrait faire de la formation continue, c'est-à-dire que même après être sorti d'école, continuer à se former sur ces questions-là. Et puis, il faut dédier du temps et donc de l'argent dans les médias à ces questions. Donc, ça passe par soit la création d'un service spécialisé, soit au contraire... faire des infos LGBT, des problématiques LGBT, des questions comme les autres et des sujets comme les autres, et de ne pas les traiter à part, mais du coup de les intégrer à toutes les... tous les sujets qu'on aborde en journalisme dans les médias et en fait d'en faire un truc d'en faire une vraie question comme la question féministe, de dire bon bah en fait c'est important d'inviter autant de femmes que d'hommes, ben peut-être que c'est aussi important de réfléchir à la question de inviter des personnes LGBT pour parler des sujets sur lesquels elles sont concernées. Typiquement quand il y a eu tous les débats sur la PMA, le nombre de prêtres qu'on a invités pour parler de la PMA, en fait, c'est des vieux mecs qui n'ont pas d'utérus, qui vont pas porter d'enfants et qui ne veulent pas d'enfants. C'est une religion qui n'a aucun avis à donner sur ces questions-là. Donc, c'est aussi ça, je pense que pour améliorer la représentation des personnes LGBT, c'est les inviter pour parler des sujets qui les concernent et pas inviter des gens qui ne sont pas concernés par les sujets LGBT.
Et donc là, vous nous avez donné un exemple de mauvaise représentation. Vous en avez un exemple de bonne aussi ?
Des bonnes représentations. Moi, là, je pense spontanément à un article qui a été fait, c'était dans Libé, je crois, par une journaliste qui s'appelle Rosane Le Carboulec, et c'était un article sur la représentation des lesbiennes au cinéma, notamment après la prise de parole de Muriel Robin, qui avait un peu dit « mais en fait, quand on est lesbienne au cinéma, on a moins de rôles, on travaille beaucoup moins et tout ». Et du coup, elle avait fait un article dans Libé en rencontrant des lesbiennes qui bossent dans le cinéma et qui disent « bah oui, effectivement, c'est compliqué », mais qui avait vraiment recueilli des témoignages et qui avait fait un super travail sur cette question-là. Donc ça, je pense que c'est une bonne représentation. Mais il y en a plein. Oui, voilà, moi je l'ai dit tout à l'heure, mais l'épisode que j'ai fait sur Marinette Pichon et les dégommeuses, bah voilà, ça aussi, ça participe à la bonne représentation des questions LGBT.
Mais tout à l'heure, vous avez parlé d'un changement dans la quantité de radios qui disaient n'importe quoi sur les problèmes LGBT. Est-ce que vous pensez que c'est parce que il y en a moins qui en parlent ou parce qu'il y a plus d'éducation à propos du sujet ?
Je dirais qu'aujourd'hui, il y a plus d'éducation sur le sujet et que donc ça progresse pour ça. Il y a quand même plus de radios qui se préoccupent de ces sujets-là. Mais il y a encore des choses qui sont très basiques et qui ne sont pas faites par les radios, mais par tous les médias. La question de la parité, par exemple, c'est flagrant. Quand on écoute les matinales sur les différentes radios on peut très vite faire un pourcentage d'hommes et de femmes, et je pense qu'on est à peut-être 40% de femmes, ce qui n'est pas suffisant car on est 50% dans la population aujourd'hui, donc bon, voilà. Mais typiquement, c'est aussi un truc de moyen de production de l'info, c'est-à-dire que quand on travaille dans un média, très souvent c'est difficile d'avoir des femmes. C'est en tout cas plus difficile pour plein de raisons. Les femmes sont moins disponibles parce qu'en fait, elles s'occupent des enfants, donc elles ont moins de temps à accorder. Enfin, elles s'occupent des enfants, il y a aussi des hommes qui s'occupent des enfants, mais de façon générale quand même, le patriarcat fait que les femmes ont une double journée, donc elles sont moins dispo pour répondre aux questions des médias. Les hommes ont aussi un... je sais pas comment on pourrait le formuler, mais une assurance ou un truc qui fait que ils peuvent parler de tous les sujets, même ceux pour lesquels ils sont pas concernés, alors que les femmes vont toujours se dire ah ben je sais pas, peut-être que y a un mec qui est mieux placé que moi pour parler. Non, vraiment, genre vas-y. Mais du coup c'est aussi un truc, donc il y a ça, il y a des femmes qui, ou en tout cas c'est difficile de les inviter. Et par ailleurs, il y a les conditions de production, c'est-à-dire que moi, typiquement, à BFM, je travaillais sur un podcast quotidien, donc il fallait que je trouve un invité par jour. Et en fait, un invité par jour, ben, c'est compliqué, il faut... Très souvent, on prend le premier qui répond, et très souvent, c'est un homme qui répond. Du coup, hier, j'ai fait des stats en me préparant. Sur les 220 épisodes que j'ai réalisés de l'année où j'y étais, on a eu 27% de femmes. C'est donc la catastrophe. Voilà. Et donc, en fait, ça, c'est un truc... où j'en suis tout à fait responsable parce que j'ai pas poussé assez pour trouver des femmes, ou en tout cas faire l'effort de commencer par contacter des femmes. Et en plus de ça, il y avait quand même un truc de... la rédaction autour de moi et les services autour de moi n'avaient pas fait de la parité un enjeu. Et donc c'était pas un truc qui était discuté, c'était bon, bah, on prend un invité, point. Mais il n'y a jamais eu d'incitation de la part de la hiérarchie ou de mon chef et tout, de... faire attention à cette parité-là, et qu'en fait, même si moi j'y suis sensible parce que je suis féministe, parce que je trouve ça important, il y a quand même un moment où on est pris dans le flux de bah, « il faut que je trouve un invité pour demain ». Et donc la première personne qui répond, je la prends, et c'est très souvent un homme.
Voilà. Mais du coup, sur cette question, on voit qu'il y a beaucoup d'autocensure, beaucoup de... même de censure, hein, littéralement. Quelle est la responsabilité de ces... de ces propriétaires de chaînes qui influencent aujourd'hui énormément les médias dans la représentation LGBT, parce qu'on a parlé de la question féministe, mais à quel point ça pèse aussi sur les queers.
C'est une vraie responsabilité parce que en fonction des sujets qu'on va choisir, ils vont être plus ou moins acceptés au sein des rédactions, et en plus de ça il y a quand même un truc de choix des angles. Des sujets, c'est-à-dire qu'on va choisir des angles un peu par exemple sensationnalistes, on va choisir des trucs de témoignages un peu voyeuristes pour raconter des histoires de personnes LGBT. Je pense notamment au traitement des questions des personnes trans qui sont hyper sensationnalisées, très mal faites. On va très vite donner les dead names de ces gens-là. Donc ça, c'est très mal fait. Et ça, c'est une vraie responsabilité des journalistes et des médias de ne pas faire attention aux angles choisis, ou en tout cas de ne pas réussir à influencer la hiérarchie pour faire des angles plus intéressants et plus politiques sur ces questions-là aussi, quoi.
Okay. Mais oui, il y a une grande différence entre parler LGBT et parler avec des LGBT. Vous avez travaillé aussi dans une association, l'association journalistique LGBT. Est-ce que BFM TV, est-ce qu'il y a eu des critiques à l'encontre de BFM TV par cette association ?
Ouais, la GL a fait un travail où ils ont critiqué certains sujets de BFM qui ont été très mal faits. Et en même temps, si je dis pas de bêtises, le co-président de la GL travaille à BFM, au service vidéo. Et donc lui a proposé pas mal de trucs sur ces questions-là. Notamment, l'an dernier, quand j'y étais, il y a eu Pierre Palmade qui a eu un accident sous l'emprise de drogue. Et très vite est arrivé dans cette actualité-là, la question du chemsex. Et donc ça a été un vrai truc où moi je me suis dit, bon là c'est une vraie question LGBT et par ailleurs une question de société sur les drogues et tout ça. Et donc il a fallu faire un épisode sur le chemsex et donc très vite on a fait attention, en tout cas au sein de BFM le sujet a été bien traité, alors que vraiment moi je me suis dit on est à BFM, ça va être une catastrophe. Et en fait, pas du tout, parce que très vite, on a eu les bons interlocuteurs, on s'est rapproché de l'association Aide et de Tétu, et donc on a eu des invités en plateau qui étaient très, très bons sur le sujet et qui ont vraiment fait tout un travail de prévention à l'antenne qui était hyper important à ce moment donné, quoi. Donc il y a eu quand même des trucs qui ont été bien faits. Mais il y a aussi des trucs qui sont hyper mal faits, j'ai pas d'exemple en tête là, mais voilà, il y a quand même des trucs qui fonctionnent pas, quoi.
Pour vous, quels impacts ont la représentation et les discussions LGBT sur le public et les individus?
Je dirais que ça a deux impacts différents. D'abord, c'est représenter les questions LGBT et donc les personnes LGBT pour dire ben, en fait on existe, on a des problématiques qui sont spécifiques à nos façons d'exister, nos modes de vie. Par exemple, ça a été tous les débats sur la PMA et qu'en fait, même encore aujourd'hui, la PMA c'est un truc qui. On a eu la loi certes, mais on l'a eu au rabais. Il y a plein de personnes LGBT qui ne peuvent pas bénéficier de la PMA comme on l'aurait voulu. Et donc ça, c'est important de continuer en tant que journaliste à informer sur la PMA qui ne fonctionne pas correctement. Par ailleurs, il y a plein d'articles qui sont sortis là cette année aussi sur les délais qu'on a d'attente de la PMA. Donc ça, c'est en fait des trucs d'explication et de représentation qui sont hyper importants, de dire, bah voilà, maintenant pour faire une PMA en France, aujourd'hui, il faut attendre 18 mois, ce qui est genre hyper long. Et je pense que ça sert aussi, donc il y a déjà ce truc de représentation, et d'explication des problématiques. Et puis, il y a aussi un truc d'éducation. Qu'en fait, oui, on est des personnes LGBT, on vit comme on vit, mais il y a plein de gens qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas ces questions-là, et que du coup, on a aussi un devoir d'éducation à faire. Et c'est pas agréable. Enfin, moi, c'est un travail que j'aime pas faire. Je me dis, on n'est pas là pour éduquer les gens, mais en fait, si, il y a quand même des choses que. Si on prend le temps de les expliquer et de raconter les choses aux gens, eh ben, ça peut aider à faire changer les choses. Typiquement, je pense au truc sur. Là, ça va être un peu le festival cet été, mais avec les Jeux Olympiques, on va avoir plein d'articles sur les sportifs trans. Et du coup, ça peut. En fait, ça, par le passé, ça a été très maltraité. Il y a plein d'articles hyper transphobes qui ont été faits, mais qu'en fait c'est une vraie question sur laquelle il y a plein de choses intéressantes à dire et qui pourraient être très bien traitées. Voilà.
Bah, merci beaucoup pour les réponses que vous avez apportées à nos questions. À vous les studios.